autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Pauline Leduc à la réalisation pour nous intéresser à la plus équivoque des couleurs. Le jaune. Du jaune d'or, si bénéfique des anciens, au jaune sale et si mal aimé des modernes, pourquoi la couleur jaune est-elle si ambivalente? Et qu'est-ce que cela dit de notre propre ambivalence et de notre évolution? Qu'est-ce que nos goûts et nos couleurs disent de nous? Voilà ce que cherche à comprendre le formidable historien des couleurs, Michel Pastoureau. Après le bleu, le noir, le vert et le rouge, Michel Pastoureau est venu en direct partager l'histoire du jaune, titre du magnifique ouvrage Jaune et Or qu'il vient de publier aux éditions du Seuil, pour nous donner à voir ce qui se cache, pour le meilleur mais aussi pour le pire, derrière le jaune du maillot ou du gilet, autour de la question « Pourquoi le jaune ?» Bienvenue dans la lumière jaune aujourd'hui. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir l'historien des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire que vous êtes. Directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, où vous avez occupé, Michel Pastoureau, la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages à succès, traduits dans toutes les langues du monde ou presque, sur la symbolique des couleurs, des blasons et des animaux. Vous venez de publier aux éditions du Seuil, Jaune, histoire d'une couleur, superbe ouvrage, érudit et richement illustré, qui fait suite au bleu, au noir et au vert, sauf qu'avec le jaune, sur lequel vous travaillez déjà depuis de nombreuses années, l'historien des couleurs que vous êtes, Michel Pastoureau, a été, comment dire, rattrapé par une certaine actualité des gilets jaunes.
Oui, j'ai été, quand je terminais mon livre, dans la situation de l'historien rattrapé par l'histoire. En effet, le phénomène gilet jaune a éclaté à la fin de l'année dernière. Et moi, je terminais mon livre sur l'histoire sociale et culturelle du jaune en Europe. Que faire? Ajouter un chapitre, ajouter une page, ajouter quelques lignes. Évidemment, j'avais une date pour remettre mon manuscrit. Et puis, j'étais parti du paléolithique. Alors, il y avait quand même 35 millénaires d'histoire dans ce livre. Quelques jours de gilet jaune, c'était une goutte par rapport à ce qui précédait. Donc je me suis interrogé surtout sur le jaune en politique, son passé et son avenir.
C'était une couleur, enfin aujourd'hui c'est une couleur plutôt mal aimée, on va y venir, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire.
Non, l'histoire du jaune, l'histoire culturelle et sociale, c'est celle au fond d'une dévalorisation. Les sociétés anciennes autour de la Méditerranée aiment beaucoup le jaune, c'est une couleur bienveillante, c'est parfois une couleur sacrée.
C'est et le jaune d'or, hein, c'est le jaune du soleil aussi.
Oui, c'est le jaune dans l'absolu en quelque sorte, mais c'est un jaune plutôt chaud. Les jaunes acides, des verdâtres, pour les peuples anciens, et notamment les Grecs et les Romains, ce sont des couleurs barbares. Et aujourd'hui, donc, dans les enquêtes d'opinion, en effet, le jaune n'est pas très bien placé. C'est la dernière couleur citée parmi les 6 couleurs de base. L'ordre est toujours le même depuis qu'on a des enquêtes d'opinion en Europe, en tout cas. Quelle est votre couleur préférée? Eh bien, depuis les années 1880, c'est toujours bleu en tête, qui écrase tout, suivi de vert, rouge, noir, blanc, et jaune qui ferme la marche.
Et oui, jaune qui ferme la marche et qu'on retrouve quand même, on y viendra aussi dans notre signalétique. Je propose de commencer en tout cas par une petite variation sonore, historique, artistique et même gastronomique sur le jaune dans tous ses états. C'est le mix du jour signé Hugo Violas.
C'est la couleur de la lumière, de l'énergie, de la vie. Van Gogh l'adorait, c'était sa couleur. Le jaune du soleil, des champs de blé, le jaune Van Gogh.
Thomas Vauclair, émotionné, retient ses larmes. Le jaune lui va si bien. 7 ans après, le Français retrouve le maillot si convoité.
J'ai envie de commencer par les robes. Celle-ci, jaune moutarde. Ah, j'adore en ce moment, c'est hyper à la mode.
Bah, le gilet jaune, c'est un signe de ralliement, en gros, pour tous ceux qui décident de participer à la journée de blocage du 17 novembre.
T'as déjà entendu parler des nuits blanches à Saint-Tropez? Ben ici, c'est les nuits jaunes et c'est chez moi que ça se passe.
Au XIIe siècle, le pape Innocent III va obliger les juifs à porter du jaune pour les soumettre au mépris du public.
C'est nul ! Zéro !
Les fleurs jaunes au jardin, les feuillages dorés, c'est du soleil, c'est de la lumière. Mais pourtant, ce n'est pas une couleur qui est très appréciée des jardiniers. Je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, je me la pète un peu là. Vous allez voir, je vais préparer avec des jaunes d'œufs confits.
Trois bons pastis de Marseille.
Sur le vieux port à Marseille, le pastis coule à flot. Le petit jaune, ou plutôt le petit jaune, comme on l'appelle ici, c'est la star des terrasses pour l'apéro.
Oh, regardez, là! La marque jaune!
La main jaune!
Et ça,
la plus chaude va éclater!
Il y a du jaune! Jaune.
Jaune. Jaune.
Michel Pastoureau, vous voulez réagir à cette explosion de jaune, forcément exhaustive?
Un certain nombre de dossiers dont je parle dans le livre sont évoqués par ce court intermède qui dit beaucoup de choses.
Et notamment, alors on a parlé au début du bon jaune, hein, celui de l'or, celui du miel, celui des blés mûrs. Le jaune qui, dans l'Antiquité, a été tout de suite utilisé, valorisé et qui est une couleur, c'est votre premier chapitre, hein, une couleur bienfaisante et une couleur appréciée.
Voilà, pour les peuples de l'Antiquité, le jaune est pris en bonne part à toute époque et dans toute société. Chaque couleur, évidemment, a ses bons et ses mauvais aspects. Mais tantôt, ce sont les mauvais aspects, tantôt, ce sont les bons qui l'emportent. Et pour les peuples de la Bible, pour les Grecs, pour les Romains et d'autres, le jaune est bienveillant et bénéfique et protecteur. Il est signe de chaleur, il est signe de lumière, il est signe de prospérité, il est signe de pouvoir même, et parfois c'est une couleur sacré. Les référents principaux sont le soleil d'un côté et l'or de l'autre. Ça suffit pour faire du jaune une couleur qui est placée en tête parfois dans la hiérarchie des couleurs.
Et très utilisée, hein, on le découvre dans l'Égypte ancienne, à Pompéi et même peut-être plutôt dans les grottes, dans les grottes paléolithiques.
Oui, en peinture, l'homme a fabriqué le jaune très tôt. Hein, c'est une des premières couleurs qu'on voit sur les murs des cavernes, la palette est assez réduite, hein, sur les murs des grottes, 30 ou 35 000 ans avant notre ère, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du jaune, parfois un petit peu de blanc, pas de vert, pas de bleu. Et pour ce faire, l'homme a utilisé des matières minérales.
Ah justement, à ce sujet, j'ai une petite question pour vous, soulevée par le paléontologue Jean-Sébastien Seyer du Muséum National d'Histoire Naturelle. On l'écoute.
Est-ce que le pigment jaune est d'origine plutôt minérale, on pense au soufre, ou d'origine végétale ou organique, on va dire, on pense à ce moment-là au pollen ou au jaune, en fait, tant développé chez les plantes.
Votre réponse, Michel Pastoureau.
Alors, les pigments, c'est-à-dire les matières colorantes utilisées pour peindre, dans la gamme des jaunes, sont essentiellement à base de minéraux. Le plus ancien utilisé, c'est l'ocre, c'est-à-dire des terres argileuses qui sont riches en oxyde de fer, en hydroxyde de fer. Et donc, les peintres des grottes avaient déjà, à l'intérieur même de la grotte, sur le sol, des terres argileuses qu'ils ont utilisées.
Vous avez d'ailleurs une magnifique illustration, hein, de l'ocre du paléolithique.
Voilà, avec déjà même une chimie des couleurs, puisque en chauffant l'ocre jaune, on obtient de l'ocre rouge, et en chauffant encore un peu plus de l'ocre brun, ça fait trois pigments. Ça, c'est la peinture. Du côté de la teinture, on n'a pas affaire à des pigments, mais à des colorants, donc il faut attendre des dates plus récentes. L'homme a peint bien avant de teindre. Il teint vers 5, 6, 7 000 ans avant notre ère, et il le fait d'abord dans la gamme des rouges et des jaunes, et pour ce faire, pour les jaunes, il utilise des matières végétales assez variées. Il y en a qui sont faciles à trouver, par exemple le genêt, c'est une plante qui permet de teindre en jaune, l'ortie, la fougère, la pelure d'oignon.
Permet de teindre en jaune.
Oui, un très grand nombre de plantes permettent de teindre en jaune ou en jaune orangé. La gaude, qu'on appelle aussi réséda, c'est une plante assez banale qui permet d'obtenir de très beaux jaunes, solides. Et puis, il y a des produits beaucoup plus chers, par exemple le safran.
Et voilà, consacrez une magnifique illustration également au safran, enfin à teindre en jaune avec du safran.
Alors dans le safran, ce sont les pistils qui permettent de teindre en jaune. Donc il faut récolter énormément de fleurs pour obtenir un peu de matière colorante, d'où la cherté de ce produit, bien sûr.
Et à l'époque, s'habiller en jaune, c'est beau, c'est positif, c'est lumineux.
Voilà, dans l'Antiquité, autour du bassin méditerranéen, il n'est pas rare que des hommes et des femmes s'habillent de jaune. Puis, quand on avance de longtemps, à Rome, à l'époque de la République, mais aussi sous l'Empire, le jaune est plutôt féminin, c'est la couleur des femmes. Et on a même quelques dossiers, je m'attarde sur l'un d'entre eux, qui montrent que quand un homme s'habille en jaune, ça n'est pas très bien vu, ça peut être transgressif. Cicéron ne manque pas de rappeler que l'un de ses pires ennemis a été surpris un jour où il cherchait à séduire la femme de César, déguisée en musicienne et portant une robe jaune. C'était tout à fait transgressif.
Ah, c'était transgressif, c'était marqueur d'une féminité, le jaune, à l'époque. Alors, comment et pourquoi, puisqu'on le découvre dans votre très bel ouvrage, Michel Pastoureau, comment et pourquoi le jaune, en Occident du moins, à partir en gros du 5e siècle, est devenu une couleur équivoque, qu'il a commencé à être un peu sale, réservé aux prostituées, aux bouffons, aux traîtres, et j'en
passe. Oui, ça se fait lentement, puis ça s'accentue au cœur du Moyen-Âge, et ça devient une mauvaise couleur à la fin du Moyen-Âge. Une des raisons principales, c'est que l'or prend sur lui toute la symbolique positive de la couleur jaune. Mmh. Et pour le jaune stricto sensu, il ne reste plus que les mauvais aspects de la couleur. Toutes les couleurs sont ambivalentes, avec des bons et des mauvais aspects. Mais si l'or prend pour lui-même tous les bons aspects, évidemment, le pauvre jaune, il n'a plus que les vices de la couleur. Et puis, plus précisément, il y a des référents médicaux qui nuisent à la couleur jaune, des humeurs pas très nobles, comme l'urine, comme la bile.
C'est jaune, tout
l'homme
ça.
Bilieux, c'est l'homme coléreux. Le jaune va devenir ainsi la couleur de la colère, de l'envie.
C'est pas le rouge.
Alors le rouge aussi, la colère a beaucoup. Il y a la colère noire,
moi,
il y a la colère bleue.
Rouge, mais bon.
Il y a une palette de la couleur qui est très étendue. Mais le jaune, c'est l'avarice, c'est l'envie, c'est la jalousie. Et puis surtout, c'est le mensonge et la trahison. Et ce sont ces deux idées-là qui vont s'installer prioritairement pour emblématiser le jaune. Au fond,
oui, c'est la couleur de Judas, la robe de Judas, on le dépeint en jaune.
Dans les images, oui, Judas, c'est le traître par excellence, c'est l'apôtre félon, et on lui donne une robe jaune et des cheveux roux. Ça fait deux attributs négatifs qui vont perdurer dans la peinture moderne, on continue de faire Judas ainsi, et jusqu'à des dates très avancées, le jaune sera la couleur du mensonge et de la tromperie, voire de la trahison.
Du mensonge, de la tromperie, du cocufiage aussi. Et puis, du coup, ce jaune si mal aimé, ce jaune sale, il devient, et moi ça m'a surpris, hein, il devient le jaune de la synagogue. Et puis, bien plus près de nous, de la terrible étoile jaune.
Voilà, on trouve des racines anciennes à l'étoile jaune, si douloureuse et assez récente. À la fin du Moyen-Âge, où dans certaines villes et régions d'Europe, les autorités obligent les communautés juives à porter sur leurs vêtements un insigne distinctif. Alors, il n'y a pas un système unifié à l'échelle de l'Europe. Ce signe, qui doit être cousu et bien visible, donc est en tissu, ça peut être un cercle, ce peut être une étoile, ce peut être quelque chose en forme des tables de la loi, ce peut être rouge, ce peut être blanc, ce peut être blanc et rouge, mais le plus fréquemment quand même, c'est jaune. Un cercle jaune ou une étoile jaune, on est là au 13e, 14e, 15e siècle, et évidemment on ne peut pas penser à l'étoile jaune imposée dans le Reich allemand en 1941 et dans les pays occupés en 1942. Y a là un lien. Le problème est de savoir si c'est un emprunt aux Juifs eux-mêmes, qui en effet portaient plus de jaune que les chrétiens au Moyen-Âge du point de vue vestimentaire, ou est-ce que c'est un choix délibéré d'une couleur qui était devenue fortement négative pour naturellement discréditer, souiller même les populations exclues ou réprouvées.
Autour de la question pourquoi le jaune justement est une couleur si équivoque, c'est tout de suite le mathématicien et écrivain Gérald Tenenbaum, qui était récemment notre invité, qui soulève cette question toujours et plus que jamais d'actualité.
Bon, sans parler des gilets jaunes, mais c'est vrai qu'un jaune, c'est un anti-gréviste, un rire jaune. Le jaune a mauvaise presse et est toujours pris en mauvaise part. Donc j'aimerais bien savoir s'il a une explication. Quel est le rapport dans une société en fonction des rouages ou de la structure d'une société? Quel est le rapport avec les couleurs? Pourquoi certaines couleurs sont aimées et d'autres sont mal aimées?
Vous avez, Michel Pastoureau, des pistes de réponse, vous qui avez beaucoup travaillé sur le bleu, le vert, le rouge, le noir et maintenant le jaune.
Oui, il faut d'abord souligner que la première fonction de la couleur dans une société donnée, c'est de classer. Comme nous, en bureautique, avec nos dossiers, nos sous-dossiers, on met de l'ordre par la couleur. Et ça, on le fait à peu près partout et à toute époque, classer par la couleur. Alors, des objets sans signification, mais aussi des choses très importantes, comme les vices et les vertus, les qualités, les groupes et les sous-groupes de population, et ainsi de suite.
Et on les classe par couleur. Enfin, pour les classer,
on utilise la couleur comme signe classificatoire. Nos vêtements sont classificatoires.
Bien sûr.
Même sans que nous n'en rendions compte. Et on classe par couleur de vêtements, de maillots, d'armoiries, de drapeaux, des équipes de sport, des pays entiers, des armées, etc. Donc on le fait dans toutes sortes de domaines. Et par là même, il y a des couleurs plutôt négatives et des couleurs plutôt positive. Donc ça se rencontre partout.
Sont les couleurs qui véhiculent ça, mais ce sont nous qui avons mis ça
bien
dedans,
sûr,
on est d'accord.
Ce sont des conventions complètement, qui varient dans le temps et dans l'espace. Ce sont des conventions. Les nuances ne comptent pas. C'est ça qui est compliqué. Ce sont les couleurs dans l'absolu, presque abstraites. Elles n'ont même pas besoin d'être représentées pour être classificatoires. Et alors, le problème, c'est pourquoi parmi les 6 couleurs de base, ou les 11 si on prend les 5 couleurs du second rang pour la culture occidentale, pourquoi le jaune est la mauvaise couleur, est devenu la mauvaise couleur. Pas d'un coup, mais lentement, entre le Moyen-Âge central et la fin du Moyen-Âge, il faut des couleurs mauvaises et des bonnes couleurs. Le bleu ne cesse de se valoriser en Europe au fil du temps. Le jaune ne cesse de se dévaloriser. Je vois une piste, ça n'est pas la seule, mais la piste, c'est celle que je disais à l'instant. L'or a pris sur lui les bons aspects du jaune, donc le vrai jaune n'a plus que des mauvais aspects. Ça n'explique pas tout, mais ça peut être une piste de réflexion.
Mais ce n'est pas une décision, ça, c'est quoi? C'est collectivement, comme vous le dites, ça se déplace. C'est-à-dire, tout le beau côté du jaune, c'est sur l'or, mais ce n'est pas une décision, mais ça continue et ça imprime sur des siècles. Enfin, vous faites ce travail-là, vous nous montrez tout ce que véhiculent ces couleurs et tout ce qu'on véhicule nous sans même s'en rendre compte avec ces couleurs.
On est là dans des faits culturels et des faits de sensibilité qu'on ne peut absolument pas changer par décret ou instaurer par décret et qui évoluent lentement. C'est pour ça que quoi qu'il se passe dans les 5 ou 10 années à venir, on n'arrivera pas à gommer le fait que le jaune est une couleur mal aimée. C'est vrai que je suis historien, donc je m'intéresse aux cycles de longue durée. Un sociologue parlerait mieux que moi des cycles de courte durée. Mais dans la longue durée, la symbolique des couleurs évolue, mais elle évolue lentement. En revanche, elle est très culturelle. Ce qui vaut pour la culture occidentale ne vaut pas pour les cultures asiatiques ou les cultures africaines. On ne peut pas généraliser à l'échelle de la planète. Je ne crois pas du tout à une universalité de la symbolique des couleurs.
C'est beaucoup plus culturel. Comment vous-même, Michel Pastoureau, vous êtes intéressé aux couleurs au point d'en devenir l'historien internationalement reconnu des couleurs?
Je viens d'une famille de peintres. Du côté de ma mère, j'avais 3 grands-oncles qui étaient artistes peintres. Et du côté de mon père, plusieurs de ses amis étaient artistes peintres. Donc, petit garçon, j'ai joué dans un atelier d'artistes. Ma mère avait été pharmacienne. Sa pharmacie était tout en haut de la butte Montmartre. Et il y avait des ateliers d'artistes un peu partout. En outre, un des amis les plus proches de mon père était André Breton. Quand j'étais petit garçon, il venait toujours à la maison en m'apportant des godets de couleurs ou des crayons de couleurs. Il dessinait et peignait avec moi. Ça a été au fond mon premier professeur de dessin.
Donc, pas mal.
Oui, c'est pas mal. Jusqu'à ce qu'il se fâche avec mon père, comme tout le monde. Pas du côté de mon père, du côté de Breton. Donc j'ai baigné là-dedans.
Et vous aviez une couleur préférée Vous avez une couleur préférée? Vous aviez déjà
Voilà, il y a des personnes qui changent plusieurs fois de couleur préférée au cours de leur vie. Moi, au contraire, non, ça a toujours été la même. Aussi loin que je me souvienne, c'était le vert. Ma couleur préférée, c'était d'ailleurs la couleur préférée d'André Breton. Est-ce que c'est lui qui m'a influencé? Je me souviens qu'on peignait souvent en vert. Il coupait une pomme de terre en deux, il mettait un peu d'aquarelle sur la pomme de terre, toujours de la couleur verte, il la sculptait en forme de poisson, et on faisait des dessins tampons, comme il disait.
Cours de dessins tampons avec André Breton, avec André Breton, c'est pas mal tout de même. Alors j'imagine que du côté du jaune, c'est le jaune-vert qui doit avoir être votre favori autour de la question. question « Pourquoi faire l'histoire du jaune et de toutes nos couleurs ?» Réponse en musique de Donovan sur RFI. Color, c'est votre choix, Michel Pastoureau, et on le partage.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, uh-huh. That's the time, that's the time I love the best.
Alors, les couleurs de Donovan sur RFI, merci Michel Pastoureau, parce que Donovan il a commencé par yellow, par le jaune. Hein.
Le premier mot de la chanson c'est yellow, ça me rappelle mon adolescence, je n'avais pas 20 ans quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, une très belle chanson que j'aime toujours.
L'historien des couleurs que vous êtes, Michel Pastoureau, que nous recevons aujourd'hui en direct autour de la question du jaune, jaune bénéfique, équivoque, mal aimé, objet de votre dernier ouvrage sur l'histoire des couleurs, le jaune dans toutes ses ambivalences, n'est-elle pas la couleur la mieux partagée sur Terre? C'est la question que vous pose François Moutou, vétérinaire et épidémiologiste spécialiste de la faune sauvage.
Alors le jaune, c'est au milieu du spectre de ce que nous voyons, donc il n'y a pas d'ultra-jaune et d'infra-jaune. On n'est pas dans les bordures. Donc j'imagine que c'est une couleur qui est plutôt partagée par ceux qui voient les couleurs, parce qu'il y a des animaux qui voient l'infrarouge, il y a des animaux qui voient l'ultraviolet. Et ben nous, on est entre les deux, et le jaune étant au centre, est-ce que c'est une des couleurs les mieux partagées dans le monde animal?
Votre réponse, Michel Pastoureau?
Voilà, cette question pose de multiples problèmes.
À l'historien que vous êtes?
À l'historien, parce que l'historien, ça n'est pas le chimiste, ça n'est pas le physicien, et dans le domaine des couleurs, arrive de participer à des rencontres pluridisciplinaires autour de la couleur avec des scientifiques, des poètes, des peintres, des sociologues, des linguistes. Et au bout de 3 minutes, on a compris qu'on ne parlait pas de la même chose. Et entre les sciences dures et les sciences humaines, il y a des barrières.
Des barrières de couleur, notamment. Parce que là, vous dites, vous ne parlez pas de la même chose. Vous ne parlez pas de la couleur dans le spectre.
Non, par exemple, le spectre, pour l'historien, comme pour le linguiste ou le sociologue, c'est un classement parmi d'autres. Et pour l'historien, nos savoirs actuels, ce ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des savoirs. Et il est probable que dans 5 ou 10 siècles, ce que croient aujourd'hui les plus grands physiciens, les plus grands chimistes dans le domaine des couleurs, ça fera sourire peut-être. Donc moi qui suis historien, je sais bien que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on ne connaît pas le spectre, on classe les couleurs tout à fait autrement, on garde le classement d'Aristote, et c'est lui qui est le classement scientifique de base, il n'a aucun rapport avec le spectre. Donc quand on est historien de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, est-ce qu'il faut s'appuyer sur le spectre, qui est le classement scientifique de base aujourd'hui, ou sur le classement d'Aristote, qui est le classement normal pour classer les couleurs jusque...
Mais en même temps, quand on parle du jaune, on parle du même jaune.
Oui et non. Beaucoup de documents parlent du jaune dans l'absolu, d'abord sans parler de nuances et sans même avoir besoin qu'il soit matérialisé, qu'il soit représenté. Avant même d'être des lumières ou des matières, avant même d'être des perceptions ou des sensations, les couleurs sont des catégories abstraites. On le voit bien quand on lit des travaux sur les rapports entre les non-voyants de naissance et la couleur. Tous vont dans le même sens depuis une trentaine d'années. Un non-voyant de naissance, arrivé à l'âge adulte, a à peu près la même culture des couleurs qu'un voyant.
Ah, donc c'est vraiment une abstraction, une construction de l'esprit aussi, la
couleur. Pour moi, c'est mon point de vue, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais regardez, là, nous sommes à la radio, nous parlons des couleurs, nous ne montrons rien, ça ne gêne absolument pas nos auditeurs.
On se représente tous ce que c'est que le jaune ou le rouge de notre micro, ou du sigle RFI, ou le blanc. Effectivement, on le sait, donc, au fond, intrinsèquement, humainement, on a une représentation des couleurs.
Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les sociétés. C'est propre à l'Occident, peut-être, de pouvoir manier les couleurs de manière abstraite. Et il ne l'a pas toujours fait. Chez les Grecs et les Romains, ça n'est pas encore le cas. Mais à partir du Moyen-Âge, les couleurs deviennent des abstractions. Mais il y a des sociétés, encore aujourd'hui, en 2019, où on ne peut pas séparer la couleur de sa matérialité. On dira des fleurs rouges, des robes vertes, des pierres jaunes, etc.
Mais il n'y a pas une couleur qui, en tant que telle, toute seule.
Voilà, dire le jaune, le vert, le rouge, dans l'absolu, comme ça, c'est pas partout possible, ni à toute époque.
Autour de la question, pourquoi le jaune, justement, et comment raconter son histoire ? Nouvelle question pour l'historien des couleurs que vous êtes, Michel Pastoureau, soulevée par Frédéric Landragin, du CNRS, qui mène ses recherches entre linguistique et informatique sur le traitement automatique des langages. On l'écoute vous interroger sur le jaune.
Est-ce que le mot jaune existe dans toutes les langues et est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'un humain perçoit la couleur jaune et insère le mot jaune dans sa langue ? Je ne sais pas si le jaune est dans toutes les langues.
Le jaune, justement. Alors, le jaune, vous dites que c'est compliqué dans certaines langues, mais est-ce que le mot jaune existe ? A priori, dans toutes les langues, ce spectre-là, cette couleur-là, cette catégorie-là.
Oui, ça pose le problème du vocabulaire des couleurs. Ouais. Il y a des sociétés, il y a des cultures où les paramètres occidentaux qui font que la couleur ne sont pas très pertinents. Il y a en Afrique noire ou en Asie centrale encore des sociétés où ce qui fait le vocabulaire des couleurs, c'est de savoir si elle est sèche ou si elle est humide, si elle est tendre ou si elle est dure, si elle est lisse ou si elle est rugueuse. Mais savoir si on est dans la gamme des jaunes, des rouges, des verts ou des bleus, c'est un petit peu moins important. Dans la Rome antique, dans la Grèce antique, je le sais bien puisque j'étudie le vocabulaire, étant helléniste et latiniste, souvent on exprime plus des problèmes de lumière et des problèmes de densité, de saturation de la couleur, que des colorations. D'où la difficulté de traduire des mots. En latin, viridis, on a l'impression que ça veut dire vert, c'est pas faux, mais ça veut souvent plus dire pâle que vert. Voilà.
Mais du coup, ça permet les couleurs aussi de rentrer dans la tête de ces hommes et de ces femmes-là du passé, parce qu'en fait, on se rend compte de la manière dont ils, je sais pas si c'est percevoir, mais concevoir, se représenter, parlait de la réalité. Parce qu'on comprend qu'une couleur...
Les sociétés anciennes sont plus sensibles que nous au clair sombre, au mat brillant, au saturé, pas saturé, au terne et paterne, et ainsi de suite. Et le vocabulaire le reflète. Et rouge, vert, bleu, jaune, ça vient que dans un second temps. Et puis, il y a un moment où les choses changent et les termes de coloration prennent le pas sur les termes de lumière et sur les termes de matière. Et ça se fait lentement.
Et à propos des mots et du vocabulaire, pourquoi est-ce qu'on dit rire jaune, par exemple, Michel Pastoureau ?
Eh bien, le jaune, devenu une couleur donc plus négative que positive à partir de la fin du Moyen-Âge, crée un certain nombre d'expressions qui sont en général pas très valorisantes à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et quand le jaune est convoqué, en effet, on est plutôt du côté de l'hypocrisie, du faux-semblant, et c'est le cas du rire jaune. Hein. Le jaune est la la couleur du mensonge. Quand on rit jaune, on fait semblant de rire, mais en fait, on ne rit pas du tout.
C'est du côté du mensonge.
De l'hypocrisie, de l'attitude qui n'est pas très valorisante. On fait semblant de rire, mais on ne rit pas du tout à l'intérieur. On rit jaune.
Alors, le jaune négatif de ce côté-là, on est toujours dans l'ambivalence, parce que le jaune, vous l'avez dit, il est aussi beaucoup dans nos signalétiques, dans nos villes. Il y a beaucoup de symboles jaunes, le métro, le ticket de métro, la ligne jaune. Et puis, il est aussi beaucoup dans le sport. Le maillot jaune, le fameux maillot jaune, il est jaune, justement, celui du gagnant.
Voilà, tous les jaunes ne sont pas négatifs, naturellement. Et je le répète, c'est l'idée forte, peut-être, qu'il faut retenir. Mm-hmm. Dans toute société, à toute époque, chaque couleur a ses bons et ses mauvais aspects. Mm-hmm. Je trouve que pour les jaunes, souvent, les mauvais l'ont emporté sur les bons, mais il y a des bons aspects, il y a des aspects neutres aussi. Pour notre œil d'aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps, le jaune est une couleur qui se voit, et qui se voit bien, d'où son utilisation dans la signalétique,
dans
les drapeaux, dans les panneaux du code de la route, plus anciennement dans les armoiries. On voit le jaune, d'où dans le spectacle de la rue, dans nos grandes villes d'Europe occidentale. Qu'est-ce qui est jaune? En général, ce sont les panneaux, ce sont les boîtes aux lettres, ce sont les taxis. Le jaune attire l'œil, et naturellement, ce n'est pas un jaune négatif, au contraire, c'est un jaune utile.
Et pour ce qui est du sport?
Alors, les sportifs, à partir de la fin du 19e siècle, ont été des agents de promotion de la couleur jaune. Les peintres d'un côté, impressionnistes et surtout fauves par la suite. On a évoqué Van Gogh au début de cette émission. On peut ajouter Gauguin, ce sont deux grands peintres des jaunes. Mais sur les terrains de sport, pas tout de suite, quand le sport moderne naît dans les collèges écossais vers 1860, il y a toujours une équipe blanche contre une équipe noire. Puis après arrive le rouge, puis le bleu, puis enfin, avant la Première Guerre mondiale, le jaune et le vert sur les terrains de sport. Et ça continue de se développer entre les deux guerres. Il y a des équipes qui jouent en jaune en Europe et sur d'autres continents, d'une très belle couleur sportive. Mais c'est surtout en cyclisme l'invention du maillot jaune au mois de juillet 1919, qui donne ces lettres de noblesse au fond à la couleur jaune. C'est un coup de génie qu'a eu le directeur du Tour. Il a décidé en plein Tour de France, je crois que c'était la 9e ou la 10e étape, Grenoble-Genève.
En 1918.
En 1919.
19 après la guerre.
Après la guerre, d'habiller le premier du classement général d'un maillot distinctif de couleur jaune, le jaune étant la couleur du journal qui organisait le Tour de France, le journal Lotto, qui était imprimé sur un papier jaunasse, sans doute bon marché. Donc, c'est une opération publicitaire, c'est une opération sportive. Ça contribue beaucoup à populariser le Tour de France, qui l'était déjà, mais qui va le devenir considérablement, le maillot jaune, et même l'expression maillot jaune, qui va quitter le monde du sport pour s'étendre à bien d'autres domaines. Aujourd'hui encore, pas seulement en français, on dit maillot jaune dans tel ou tel domaine de l'économie. Cette firme est maillot jaune dans la pétrochimie. On peut dire des choses comme ça. On peut le dire en français, mais aussi en italien. Alors que le premier du classement général au Tour d'Italie, le Giro d'Italia, porte un maillot rose, l'expression maillot jaune existe en italien.
Ah, on le qualifie quand même de jaune. Autour de cette question du jaune, je propose maintenant à Michel Pastoureau un nouvel éclairage sportif aussi, finalement, mais vu d'ailleurs, vu du Bénin, recueilli par notre correspondant sur place, le médecin et journaliste scientifique et blogueur Isaac Houmningbé. Il est rédacteur en chef de Radio Univers, la radio de l'université d'Abomey-Calawi, et il a enfilé pour nous justement le maillot jaune de reporter dans les rues d'Abomey-Calawi.
Amenez la coupe à la maison, allez les écureuils.
Depuis les années 2000, le Bénin a commencé par arborer la couleur jaune. Chaque fois que les écureuils portent la couleur jaune, les écureuils ont une victoire.
Je prends l'exemple des conducteurs de taxi-moto au Bénin, communément appelés les émigrants, qui sont en couleur jaune. Ça frappe à l'œil. Tout de suite, quand tu viens au bord de la voie, tu écarquilles les yeux, tu cherches à voir le jaune.
J'aime le jaune, mais je préfère la couleur bleue parce que le jaune tape plus à l'œil, c'est plus vif. Oh, moi, j'aime la distraction.
Quand quelqu'un met la couleur jaune comme ça, tout de suite, on se dit, pourquoi il est en train de jalouser? La première réflexion, c'est qu'il est en train de jalouser par rapport à quelque chose.
J'aime particulièrement la couleur jaune parce que c'est une couleur qui reflète la clarté.
Le jaune dans le drapeau béninois inspire ce que nous appelons le présage. Des riches trésors, le présage, c'est cela même le symbole du jaune. Et il faut dire que c'est l'avenir du peuple béninois, c'est la confiance en ce lendemain meilleur.
Le jaune vu du Bénin aujourd'hui, Michel Pasteur, vous voulez réagir? On a entendu plein de choses, hein, du
plein
très
de choses,
positif,
oui,
du négatif, ça jalouse.
Voilà, c'est le pays n'est pas un pays occidental, mais il est un peu occidentalisé par certains côtés à cause de la colonisation. Donc on trouve des choses assez variées en Afrique noire. Comme on l'a fait remarquer, le jaune est largement plus présent qu'en Europe dans la vie quotidienne, sur les drapeaux aussi des pays d'Afrique noire. Il a bonne presse. J'invite tous les voyageurs qui s'éloignent un peu de leur pays d'origine d'être observateurs des couleurs, quelles sont les différences ou les ressemblances avec le lieu dans lequel ils vivent. Moi, c'est ce que je fais toujours. Et quand on s'éloigne de l'Europe occidentale, souvent, en effet, on voit plus de jaune que chez nous, en Amérique du Sud, en Afrique noire, du côté de l'Asie et surtout de l'Extrême-Orient. Le jaune est largement présent et plein de vertus. Et au contraire, le bleu, par exemple, qui est la couleur préférée en Occident et la couleur la plus portée dans le vêtement, est beaucoup plus rare dans certaines sociétés. Donc c'est un exercice facile à faire et qui est jubilatoire.
Ça dit quelque chose, vous ouvrez les yeux sur les couleurs quand vous voyagez, Michel Pastoureau. Le jaune d'ailleurs dans les vêtements, alors on note quand même, en tout cas je trouve dans notre mode féminine, l'apparition d'accessoires jaunes, des bottines jaunes, un petit sac jaune. Par contre chez les hommes, ils ne portent pas de jaune.
Pour l'instant, oui. J'observe en effet depuis une dizaine d'années que dans le spectacle de la vie quotidienne, dans les grandes villes d'Europe occidentale, il y a un petit peu plus de jaune que quand j'étais enfant ou jeune homme. Le jaune était pas absent, mais était vraiment très très rare. Et puis, il y a une petite montée du jaune dans les accessoires, comme vous dites, par petites touches, dans le spectacle de la rue, mais aussi dans nos appartements. Et
petite touche de jaune.
Et dans le vêtement des dames. Pas dans le vêtement des hommes, sauf sur la plage, sur les pistes de ski, sur les terrains de sport, qui sont des lieux particuliers.
Et là, on peut mettre du jaune fluo. Là,
voilà, là, il y a beaucoup plus de jaune. Donc, si j'étais un styliste, un designer, j'investirais dans le jaune. Il y a une place plus grande à prendre pour cette couleur.
Ah, le jaune à surveiller. Mais alors, le jaune, c'est aussi une couleur, comment dire, qu'on a sali, hein. Le jaune, c'est la couleur des prostituées, c'est la couleur de l'infidélité. On l'a dit, c'est la couleur des traîtres, mais elle est quand même, il y a une déconnotation sexuelle autour du jaune et plutôt négative.
Oui, ça vient d'abord des humeurs du corps, ce qui est à l'intérieur, et qui est toujours un peu souillé, inquiétant, le jaunâtre, le jaune bilieux, le jaune de l'urine, ça favorise pas beaucoup la symbolique de la couleur. Et l'idée pour les prostituées, c'est qu'elles doivent se faire remarquer pour se distinguer des honnêtes femmes à partir de la fin du Moyen-Âge, et donc porter une couleur qui est peu portée par les honnêtes femmes. Donc on a souvent fait le choix du jaune, pas seulement du jaune, mais souvent du jaune, une pièce de vêtement jaune, une ceinture jaune, une aiguillette jaune, une robe jaune, mais le rouge est aussi fréquemment sollicité dans cet emploi. Et puis au théâtre, dès que quelqu'un est en jaune, ça se remarque. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est la couleur de la tromperie. Donc, c'est à la fois celle des trompeurs, les menteurs, les hypocrites, etc. Et des trompés,
oui,
les maris cocus. Mais on est sur les deux versants de la tromperie. Trompeurs et trompés ont à voir avec la couleur jaune.
Attention à ne pas franchir la ligne jaune. On écoute Mathieu Vermeulen sur RFI qui nous chante l'infidélité, justement, mais avec la ligne jaune.
On s'était pris un petit café, c'est vrai qu'on se parlait à peu près. Ah oui, mais ça s'est pas trompé. Ensemble, nous sommes levés, il faisait chaud, c'était l'été, nos ombres s'étaient entremêlées. On a marché un petit peu, on s'est offert une glace pour deux, on l'a su ses yeux dans les yeux. Si nos langues se sont mélangées, là faut me croire, sans déconner, c'était vraiment sans le faire exprès. Un bout de pistache s'est envolé et est venu se réfugier juste au fond de son chemisier. C'est vrai que ça n'explique pas le fait que juste derrière cette grande haie, doucement je l'ai déboutonné. Là faut me croire, monsieur le curé, dans ces cas-là faut pas lutter, d'ailleurs on n'a pas essayé. Doucement mes yeux se sont fermés, et comme dirait ma sœur aînée, quand on ne voit rien, c'est pas trompé. Derrière cet arbre on s'est blotti, ses lèvres miennes se sont unies, et puis ce fut le paradis. On venait presque de toucher Dieu quand une brochette de petits morveux a crié « Oh les amoureux !» On s'est regardé, on s'est souri, le ciel devenait un peu gris en se rhabillant, je lui ai dit. L'été il y a, avant l'orage, des parfums qui vous mettent en nage, des fois il faut ouvrir la cage.
La ligne jaune de Mathieu Vermeulen sur RFI. Michel Pastoureau, autour de cette question du jaune couleur ambiguë, vous citez en ouverture hein, de ce livre sur le jaune, magnifique livre sur l'histoire du jaune, vous citez le poète Goethe, le jaune est une couleur agréable, soyeuse, douce et joyeuse, mais placée dans l'ombre, elle devient vite déplaisante et le moindre mélange la rend sale, triste, laide et de peu d'intérêt. Il avait tout compris, Goethe.
Oui, comme toujours, quand on parle de couleurs, d'histoire et de symbolique des couleurs, c'est difficile de ne pas citer Goethe. Il est entré en conflit avec Newton dans son traité des couleurs, qui paraît en 1810. Goethe pense que Newton, qui a découvert le spectre plus d'un siècle plus tôt, s'est trompé. Mais il ne parle pas de la même chose. Newton est physicien, et Goethe est poète et un peu sociologue ou anthropologue. Donc ils ne sont pas sur la même longueur d'onde.
C'est le cas de le dire, hein, longueur d'onde
oui,
lumineuse,
voilà,
ou colorée,
ça.
Oui.
Et les scientifiques reprochent beaucoup de choses à Goethe, mais ils ne se rendent pas compte que Goethe n'est pas vraiment un scientifique, même s'il l'a voulu l'être tout au long de sa vie d'ailleurs. Il est poète, il est observateur de la société, il fait des remarques très pertinentes, et en effet, le jaune est une couleur fragile, à la fois du point de vue chimique et du point de vue physique. Elle se salit, elle s'abîme, ce jaune qui est si gai, si joyeux, peut-être contaminé par n'importe quelle couleur voisine.
Oui, dans ce cas-là, il devient terne, laid,
désagréable. Oui, voilà. Sous le Second Empire, on raconte que quand une femme brune a pour rivale une femme blonde, il suffit qu'elle s'asseye à côté d'elle, vêtue d'une robe jaune, ça suffit pour créer une guéguerre entre les deux dames, et l'une et l'autre sont tuées.
Du jaune au blond, alors le blond c'est plutôt positif, mais le jaune-jaune peut...
Voilà, quand j'étais enfant, on disait qu'une blonde ne devait jamais s'habiller en jaune. Je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui.
On dit beaucoup de mal des blondes, on dit beaucoup moins de mal des jaunes aujourd'hui, peut-être. En tout cas, on l'a vu réapparaître ce jaune à l'automne dernier, il y a un an exactement, sur les gilets jaunes. À ce sujet, une nouvelle et dernière question pour vous, soulevée par Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho.
Est-ce que vous pensez que la couleur peut donner un sentiment de communauté ou du moins d'appartenance à une communauté? Je pense parce que il y a encore les gilets jaunes. Est-ce que l'effet uniforme, l'effet on porte la même chose, renforce le sentiment d'appartenance à une communauté pour les personnes qui le portent?
Qu'en pensez-vous, Michel Pastoureau?
Oui, bien sûr, une couleur peut être fédérative et donner une cohérence à une communauté, que celle-ci soit petite, une équipe de football par exemple, ou tout un pays autour de son drapeau, et moins il y a de couleurs dans le drapeau, plus c'est fort.
Donc c'est autour d'une ou deux couleurs que ça rassemble le plus.
Oui, éventuellement trois, mais pas plus. C'est d'ailleurs, les drapeaux les plus anciens n'ont jamais plus de trois couleurs. Oui, c'est fédérateur une couleur, et c'est pour ça que la couleur est très souvent sollicité pour constituer un emblème, quel qu'il soit, hein, d'un groupe informel ou d'un groupe institué. Et ce qui est encore mieux, c'est quand il y a un certain mystère des origines. On ne sait pas très bien qui a choisi, pour dire quoi, dans quel contexte. Par là même, l'emblème en couleur est encore plus fort. C'est le cas de beaucoup de drapeaux où on ne sait pas très bien comment il est né, pour dire quoi. Mais a posteriori, toutes sortes d'explications se greffent, qui sont aussi des documents d'histoire.
Et du coup, on arbore les mêmes couleurs, on est sous les couleurs.
On arbore les mêmes couleurs, oui, c'est assez banal de le dire, mais... sous les couleurs, et puis ça peut devenir même un peu sacralisé. On hisse les couleurs, on descend les couleurs. Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai appris à descendre le drapeau tricolore, et non pas en faire un chiffon, mais le plier correctement. Et le bon usage, au moins en milieu militaire, je ne sais pas si c'est encore le cas, veut, et c'est très très instructif, qu'on cache le blanc, on cache le rouge, et on ne doit voir que du bleu dans le drapeau tricolore.
Voilà pour le drapeau tricolore. Et pour les gilets jaunes, justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur, de ce choix de ce gilet jaune ou orange qu'on a dans notre voiture? Ça a changé. Enfin, aujourd'hui, ce mot gilet jaune, il va rester, je pense. Et ça a changé quelque chose, même dans la perception qu'on peut avoir du jaune, à votre avis? Ou pourquoi le choix de cette couleur ou...
Alors, pour l'historien, évidemment, nous manquons de recul pour voir ce que ça va devenir.
Sûr,
mais c'est intéressant parce que en politique et dans les domaines apparentés, depuis deux siècles, on évitait soigneusement la couleur jaune, qui était la couleur des traîtres. Donc, aucun parti, aucun syndicat ne puisait dans cette couleur. Mais en même temps, comme nous sommes là dans un domaine où les nuances ne comptent pas et que le nombre des couleurs que l'on peut solliciter est très réduit et que la plupart sont déjà prises, que faire quand on crée un mouvement nouveau, un parti politique nouveau? Il faut bien puiser dans les couleurs non utilisées. Le jaune était de celles-là. Et j'ai observé qu'avant les gilets jaunes, en Italie, le mouvement 5 étoiles s'était emblématisé par le jaune. C'était la seule couleur disponible. Un peu plus anciennement encore en Allemagne, les libéraux qui sont ni la CDU ni le SPD, mais qui s'allient tantôt aux uns, tantôt aux autres, avaient choisi le jaune. Donc il y a peut-être un avenir, pour ces raisons-là, en politique, pour cette couleur qui était laissée de côté. Alors, les gilets jaunes, c'est une histoire d'automobile au début, c'est assez banal qu'on ait choisi un objet qui était dans la voiture, le gilet obligatoire. Ce qui est curieux, c'est que je connais beaucoup de gens qui ont ce gilet dans leur voiture, il n'est pas jaune, il est orangé.
Oui, il y a des gilets orangés.
Comme s'il y avait deux modèles, au fond, qui étaient tout à fait légaux. Et j'ai eu le malheur de dire, au début du mouvement, que l'orangé aurait été mieux choisi que le jaune, parce que l'orangé implique mieux l'idée de sauvetage, bouée de sauvetage, canot de sauvetage, gilet de sauvetage. Et si l'idée, je crois que c'est le cas, c'est de sauver une certaine France qui est oubliée, l'orangé, qui est une couleur gaie et en général appréciée, aurait peut-être été mieux venu. Mais je me trompe, il faut attendre un peu pour voir si ce jaune va prendre de l'importance, va devenir une couleur politique et quel sera son avenir, il faut en parler dans quelques décennies.
Je ne sais pas si je pourrais vous réinviter dans quelques décennies, mais on verra bien sur quelle couleur travaillez-vous maintenant, ou peut-être que vous lâchez un peu ces couleurs pour revenir à d'autres amours et un autre bestiaire, peut-être.
Voilà, je souhaiterais faire une pause couleur. J'ai écrit l'histoire du bleu, l'histoire du noir, du vert, du rouge, maintenant du jaune. J'ai traité le blanc avec le noir, donc il faudrait que je m'attaque aux demi-couleurs, le violet, l'orangé, le rose, le gris et le brun, dont l'histoire est plus courte et la symbolique un peu moins forte. Peut-être les traiter ensemble dans un ouvrage collectif, si je puis dire. Mais j'ai envie de repasser à l'histoire culturelle des animaux, qui est mon autre terrain d'enquête. Pas si différent que ça, d'ailleurs.
On vous reverra pour ça, j'espère bien. Merci infiniment, Michel Pastoureau, d'être venu en direct partager tout ce jaune, tous ces jaunes. Le jaune, histoire d'une couleur, ouvrage de référence magnifique, superbement illustré, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Et vous revenez quand vous voulez, par les couleurs ou par les bestiaires. Merci, Michel Pastoureau.
Merci beaucoup.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Pauline Leduc à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, comment imaginer l'univers? C'est l'astrophysicien et poète Jean-Pierre Luminet qui aura carte blanche pour nous entraîner jusqu'au cœur des trous noirs. Merci de votre curiosité. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est presque l'heure des informations. Thank you.